Voilà, c'était donc le thème de Batman qui va nous suivre pendant cette petite chronique. Voilà, autour du film de Spirit. Et Anthony, donc de l'émission Split Screen, a bien voulu nous rejoindre pour parler du film et essayer de mettre en avant quelques-unes de ses qualités. Alors moi, je vais commencer par présenter un peu l'œuvre. Hein, donc The Spirit, qui est sorti donc le 31 décembre de cette année. Bon, effectivement, on a mis un peu de temps pour en parler, mais bon, voilà, c'était les fêtes, c'est un peu difficile quand même, c'est bizarre d'avoir choisi cette époque pour sortir ce film. Alors, c'est un film qui est réalisé par Frank Miller. Alors, pour les gens qui connaissent pas trop le comics, il faut savoir que Frank Miller est derrière le scénario et a grandement participé à la réalisation de Sin City ainsi que de 300 hein, qui sont sortis ces deux dernières années si je ne me trompe pas. Et donc The Spirit, c'est un gros film avec beaucoup de stars. Donc il y a entre autres Samuel L. Jackson, Scarlett Johansson, Eva Mendes. Eva Mendes. Alors bref, j'adore les photocopieurs. Et voilà, et puis il y a plein de gens, il y a une la flic là, je sais plus comment elle s'appelle, je sais pas si t'as retenu son nom, donc voilà. Et je vais laisser Anthony nous parler un peu de l'histoire peut-être de donc The Spirit.
Oui, bon bah raconte l'histoire d'une sorte de vengeur masqué qui veille sur la ville. D'ailleurs, la ville, je ne sais même plus comment s'appelle la ville. Est-ce qu'elle a un nom particulier d'ailleurs?
Ça va me revenir. Continue.
En tout cas, lui-même se décrit comme étant The Spirit, c'est-à-dire l'esprit de cette ville. Il veille à tous les crimes qui peut se dérouler. Il a un peu de mèche avec la police parce que c'est un peu un hors la loi, disons, qui fait pas ça dans les règles de l'art.
C'est Carras.
Excusez-nous, de temps en temps, il va y avoir l'intervention d'un jeune homme enthousiaste qui va dire des choses bizarres. Voilà, je te laisse en
continu. Et donc, il va avoir, il y a un moment où on va apprendre qu'il a des pouvoirs assez cachés, puisque donc, je vais pas en plus en révéler que ça, mais ce qui est intéressant déjà avec ce personnage, c'est qu'il a pas vraiment de super pouvoir, quoi. On l'apprend un peu plus tard dans le film, mais au début, il nous apparaît comme
un mec avec un masque.
Ouais, en gros, c'est un guignol qui met un masque et qui se balade dans la rue et qui désingue un peu les méchants, quoi. Il a pas vraiment, c'est pas comment dire, un Superman, c'est pas un X-Men, c'est pas voilà quoi.
C'est un Batman.
Oui, enfin, tu m'interromps pas, s'il te plaît, je veux dire. Non, je plaisante ça. Non, mais en plus, il est droit à côté de moi, là, comme ça. Non, mais. Et donc.
Tu fous une baffe à la première connerie que tu dis.
Oui, laisse-le, Tony. Allez, va-t'en, regarde-toi.
Par contre, j'étais un peu. Déjà, juste souligner une chose. Le film a été très mal distribué dans la région. Il est passé, si je me trompe pas, il passait qu'au Pâté Lumière. Et il passait dans une toute petite salle. Donc, ça voulait bien dire déjà un peu le caractère. Du film, dans le sens où je sais pas comment ils ont eu les instructions, mais on leur a pas dit de mettre ça dans la plus grande salle. C'était une toute petite salle qui a attiré très peu de monde. Et d'ailleurs, en France, il est sorti avant en France par rapport aux États-Unis. Il est sorti le 2 janvier, je crois.
D'accord, ok.
Voilà, donc on l'a eu avant.
Parlons un peu de l'histoire et de ce que tu tirais de bien, quoi, en fait.
Comme je te disais, après avoir fait cette petite parenthèse, c'est que moi je connaissais pas le comics d'origine. Donc, bon, j'avais peur de passer quand même à côté de certains, peut-être certaines références, tu sais, un peu comme les geeks, peut-être qu'ils connaissent. Moi, je sais que dans la salle, il y a pas mal de personnes qui devaient bien connaître le comics, puisque à certaines répliques, il y a rigolé. Moi, je comprenais pas forcément, puisque je n'avais jamais lu le comics d'origine. Mais moi, ce qui m'a plu, c'est vraiment. Alors, souvent, on fait référence à Sin City. Bon, forcément, c'est pas compliqué, c'est le même mode graphique. Donc, c'est sûr, on fait référence à Sin City. Mais j'ai l'impression que par rapport justement à Sin City, là Frank Miller il a le truc bien en main, c'est à dire que sur Sin City c'était pas non plus, alors là c'est ça, il y avait plein de choses qui ont été écrites là dessus, qui ont été dites, je sais pas quel pouvoir il avait réellement sur le plateau, mais là voilà, là Frank Miller sur The Spirit c'est lui qui a toutes les clés en main, c'est lui qui dirige, c'est lui le patron. Donc voilà quoi, s'il a envie de reprendre un peu la charte graphique de Sin City, pourquoi pas, c'est quand même lui qui l'a dessiné, c'est lui qui l'a créé, donc je veux dire, bon, revient à César ce qui est à César, donc je trouvais ça légitime. Et moi j'ai trouvé, c'est vraiment un petit côté, le côté surréaliste. Tout d'abord, certaines séquences. Je ne sais pas si tu te souviens, Alain, mais à un moment, The Spirit est sous l'eau et on a ces gros portraits, ces grands portraits de femmes.
Oui, et... tout à fait. Oui, 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 je m'en souviens.
Et donc, moi, ça m'a fait penser à un moment à Valse avec Bachir, un peu. Il y a une séquence de rêve avec ces grands personnages féminins. Et moi, ça m'avait pensé un petit peu à ça. On a l'impression d'être dans un rêve et également cette figure de la mort aussi. Très sensuelle, très attirante.
La Lorelei.
Ouais, et en même temps très... Ben voilà quoi, on n'est pas non plus chez... On remarque que Dali aurait pu la peindre hein, quasiment, c'est un côté un peu... on a du mal à la définir quoi, elle a un peu... elle a plusieurs visages, on a l'impression, on sait pas très bien comment elle est caractérisée dans le plan, et puis lui, mais en même temps elle est très attirante avec cette voix un peu sensuelle, et c'est un peu, sa voix nous permet de mettre un visage sur ce personnage un peu fantastique. Également aussi, pour continuer sur le côté un peu surréaliste des personnages, Samuel L. Jackson, c'est un, bon voilà, le mec qui se prend un peu pour Dieu, quoi, c'est vraiment, voilà, quoi, c'est, il cherche un objet, bon, voilà, j'en dirai pas plus. Il cherche un objet assez mythologique qui pourrait lui apporter quelque chose d'extraordinaire en ce qui concerne sa propre personne. Et la séquence, bon bah moi, l'une des séquences marquantes du film, c'est là où il vient de capturer le Spirit, et il y a toute une mise en scène où il apparaît en soldat SS avec ce gros drapeau nazi, et il se met à réciter une sorte de dialogue. Enfin, on est au théâtre quoi. C'est complètement loufoque. On se dit mais où on a atterri. Il y a un moment on se dit mais qu'est-ce qu'il fait, mais c'est pas possible. Et moi ces univers là, totalement décalé, j'adore. Parce qu'il aurait pu très bien, parce qu'il y en a qui auraient pu dire, bah d'accord, ok, il reprend la charte graphique de Sin City, donc du coup, on va voir un peu ce côté sombre de Sin City, un peu, c'était très coloré en même temps, Sin City très sombre, en même temps très coloré. Et ici aussi, c'est la couleur rouge qui revient souvent, cette couleur du sang, et la couleur jaune aussi, parce que surtout vers la fin du film. Mais donc pour en revenir au côté fantastique, c'est vraiment ça qui m'a vraiment alors je sais pas, du coup c'est ça qui est embêtant, c'est que je savais pas si c'était présent dans le comics d'origine, ce côté un peu fantastique surréaliste des personnages mais en même temps des situations.
Alors effectivement, donc c'était intéressant d'avoir l'avis de quelqu'un qui ne connaît pas forcément le comics, puisque c'est comme ça que la plupart des gens qui l'ont reçu en France ont pu l'apprécier. Il faut savoir que derrière donc The Spirit, c'est une institution aux États-Unis, c'est en tout cas une bande dessinée qui a marqué son époque et qui a aussi influencé énormément de dessinateurs et d'auteurs dans les 30 ou 40 ans donc de son après sa création. Il a été créé aux alentours de 1929, donc c'est vraiment une vieille série, et c'est sur cette série en fait que Will Eisner s'est fait la main et a fait sa réputation. Donc effectivement, donc The Spirit est une série de mystery men, c'est-à-dire d'hommes masqués tels qu'il y en avait à l'époque, un peu à la The Shadow, si tu te souviens du film que tu as peut-être vu avec Alec Baldwin.
C'est quelque chose.
Voilà, donc c'est vraiment des personnages de vengeurs en fait, sauf que le Spirit, effectivement, c'est un justicier dans la nuit, sauf qu'il a ce petit truc qui le met à part en fait, une sorte d'humour, c'est un personnage vraiment décalé, et en fait il lui arrive plein d'aventures et on sait jamais si c'est sérieux ou s'il risque la mort, puisque à tout bout de champ en fait il arrive à ressurgir, à vaincre ses adversaires, mais il y a vraiment un côté classieux que n'avait pas et que n'ont rarement eu les autres personnages des Mystery Men de l'époque. Et c'est vraiment aussi une BD où Will Eisner a fait beaucoup d'expérimentations graphiques. C'est même une bible, je pense, que Will Eisner en 1930, dans la série en fait de The Spirit, a quasiment passé en revue toutes les possibilités du 9e art. Je sais pas ce que t'en penses, Tony.
Voilà, c'est vrai que ce qu'on retrouve aussi un peu dans les affiches, c'est sa capacité, c'était le premier à le faire à ce point-là, à intégrer le texte dans l'image. Et notamment, le titre The Spirit était écrit de manière différente à chaque fois, était écrit en trois dimensions. Et reprenait des formes d'objets, de meubles, et il avait toujours intégré son titre de manière différente. C'est quand même une bande dessinée qui a duré jusqu'aux années 50. Dans les années 50, d'ailleurs, c'est aussi Wallace Wood qui en a dessiné pas mal. C'est aussi une série qui est très visionnaire, puisque quand on reprend en 52, il a envoyé le Spirit sur la Lune, avec des designs qui bizarrement ressemblent étrangement, mais vraiment énormément, à ce qu'Hergé nous pondra 2 ou 3 ans plus tard en faisant Destination Lune et On a voyagé sur la Lune.
Oui, c'est Objectif Lune et On a marché sur la Lune.
Ouais, enfin c'est pareil, enfin on s'en fout, enfin c'est du truc là avec le mec qui a la crêpe sur la tête. Et donc voilà, donc je n'irai pas jusqu'à dire que Hergé a plagié le Spirit, mais j'irai quand même franchement à dire que Hergé ne peut pas ne pas s'être inspiré du Spirit pour créer ces deux albums et les designs des costumes spatiaux qu'ils utilisent.
Et d'ailleurs, je trouve ça très osé de prendre en tant que personnage principal un acteur qui est pas connu du tout. Je veux dire, bon,
c'est totalement un risque. Malheureusement, je trouve pas que le risque est payé.
Bah voilà, je pense que pas du tout, parce que du coup, le mec, enfin, le personnage se fait totalement engloutir par le personnage de Samuel L. Jackson. Pour une fois qu'il arrive à sortir un peu du lot, Scarlett Johansson quand même, qui est bon. Bon, le problème c'est que là, elle est vraiment présente, mais par sa plastique qui est largement mise en valeur, ça c'est clair. Et les détracteurs comme Jackie qui diront que c'est juste une poupée qui est là devant l'écran, là, à la rigueur, c'est dommage, mais c'est un peu ça quoi.
En même temps, ça participe extrêmement bien de la mythologie de The Spirit, parce que
c'est là
dans,
où,
voilà, dans The Spirit, il y avait vraiment des belles pépées, comme on dit à l'époque. Eva Mendes et The Spirit. Spirit est vraiment une bande dessinée où les femmes fatales, tel qu'on peut la.
Mais oui, voilà, on retrouve l'ambiance
tout à fait des années 40.
Surtout avec Eva Mendes, puis le coup du photocopieur, et puis que justement après, le Spirit il fout dans la poubelle, il fait ah, tu vois, t'as laissé des traces. Mais c'est ce côté complètement décalé, puis. Et puis moi je trouve que ce qui fait le Spirit, c'est sa cravate. C'est vraiment. Il n'y a pas de Spirit sans sa cravate. La preuve, à un moment, donc il est blessé. Tout le monde s'étonne parce qu'il il a incroyablement guéri vite. Et puis il fait je veux une cravate rouge. Voilà. C'est pas le masque, c'est la cravate. C'est étrange, mais je ne saurais pas encore pourquoi. Mais pour moi, ce qui définit le Spirit, c'est la cravate. Et donc voilà, après, et je trouve qu'on n'est pas forcément tout le temps dans Sin City, puisque par exemple, je pense à la première fois où on voit le personnage d'Eva Mendes, elle sort de l'eau, mais on a l'impression que là, par contre, pour les actrices, c'est un bonheur de jouer dans un film comme ça, parce qu'au moins tu rajeunis, quoi, ça c'est clair. T'as pas une ride, t'as rien du tout, c'est génial, quoi. Là, t'es photoshopé, quoi.
C'est vrai.
Je pense que tu te rendras encore plus compte à quel point on est dans le Spirit quand va sortir le film Le Spirit 2.
Ah, c'est prévu ?
Qui est prévu. Qui est basé sur le scénario de A Damned to Kill For, donc le deuxième tome de Sin City, qui est le meilleur.
Tu parles en fait de Sin City.
De Sin City 2, qui est donc basé sur le scénario de A Damned to Kill For, qui donc reprend complètement ce style années 50 et femme fatale, et qui est sûrement de tous les Sin City celui qui a le plus gros hommage au spirit et au genre de la BD noire et du roman noir, avec cette utilisation de cette dame en tuer pour elle.
C'est Greta Garbo en fait, hein, tout
voilà,
simplement.
Oui. Et là effectivement, quand tu vas voir ce deuxième film, tu vas peut-être te dire, on a déjà vu ça dans Spirit. Et c'est vrai que c'est bizarre de le faire à ce moment-là, parce qu'on revient quand même sur un concept qu'il va utiliser aussi dans Sin City 2.
Voilà, donc je rajouterais juste donc en dehors de l'aspect simplement filmique et de l'approche qu'a pu avoir Miller par rapport à The Spirit, c'est que déjà, effectivement, Miller, avec tous ses héros urbains qu'il a pu adapter ces 30 dernières années, il avait de toute façon un héritage par rapport à The Spirit. Il n'aurait pas pu construire son Daredevil ou son Batman sans l'influence de The Spirit. Et il y a aussi une grande, alors je dirais pas de complicité, mais en tout cas, Will Eisner, qui est le créateur de The Spirit, et Frank Miller se connaissaient même bien.
Alors, ce sont deux grands amis, entre guillemets, puisqu'ils vivaient tous les deux à New York et que finalement, ils se fréquentaient énormément sur les dernières années de la vie d'Eisner. Et donc, il y avait eu une idée d'un livre qui est sorti à titre posthume, puisqu'en fait, Eisner n'a jamais eu le temps de le voir, qui s'appelle Eisner Miller, qui est sorti aux éditions Rackham en français, et où en fin de compte c'est un livre d'entretien. Donc il y avait un journaliste qui était là avec les deux auteurs. Donc ça se passe en partie dans les bureaux d'Eisner, là où il travaille. Ça se passe autour de sa piscine, enfin c'est vraiment ils sont ensemble dans leur intimité et ils discutent de différents éléments. Donc il y a une trentaine de thèmes pour chaque chapitre qui sont lancés sur le sujet et on les voit discuter. Et c'est très étonnant parce qu'il y a des fois on semble se perdre. J'ai quand même vu des moments où on a l'impression qu'Eisner est plus de droite que Miller. Ce qui est quand même assez étonnant, parce que Eisner est quand même effectivement représentant effectivement de cette bande dessinée juive du début du siècle dernier. Miller est quand même un peu méga à droite. On lui a un peu méga reproché quand même. Et on continue à les reprocher. Et donc c'est vrai que quand on voit que tout d'un coup, face à Eisner, Miller est en train de se transformer en délégué CGT, on dit il y a un truc qui cloche. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que Miller a vraiment une admiration pour Eisner, a une admiration pour le Spirit. Et du coup, on est très étonné de voir que ce film, c'est plus du Miller que du Eisner. Et c'est vrai qu'il s'est quand même approprié tellement l'univers du Spirit dans ce film qu'on se dit, il a un peu oublié qu'Eisner était là au départ.
Alors il faut aussi... effectivement, on peut voir le film comme un pur divertissement et sans voir la référence par rapport au monde du comics. Donc ça se regarde quand même bien.
Oui, ça se regarde bien. Oui.
Donc par contre, si vous voulez effectivement aller un peu plus loin dans la réflexion et que ce film vous serve en fait à partir vers d'autres œuvres, il faut vraiment voir The Spirit et lire les Daredevil de Frank Miller en parallèle, puisqu'il y a beaucoup d'éléments du Daredevil de Frank Miller, ce Daredevil qui l'a rendu célèbre, hein, Frank Miller, dans la fin des années 70, début des années 80. Il y a beaucoup de figures du film dans The Spirit qu'on retrouve dans Daredevil. Il y a effectivement ce héros qui identifie une ville, voilà, autant Daredevil, une sorte d'incarnation de Hell's Kitchen et de New York, des faubourgs pauvres de New York, autant The Spirit. C'est l'incarnation de Central City, donc dans la ville qui lui parle, hein, qui l'aime, qui est dans son sang. On retrouve effectivement la femme fatale, Elektra ou Eva Mendes, c'est un peu les mêmes choses. Il y a plein de choses qui reviennent, il y a un sentiment. Voilà. Moi, effectivement, en regardant ce film, donc je m'attendais pas du tout de toute façon à une réussite, à un film qui allait changer l'univers, parce que voilà, Frank Miller transporte un peu trop de casseroles.
Il n'a pas de chance avec le cinéma. Lui.
Voilà, donc en tout cas, ces trois dernières expériences de cinéma se sont mieux passées que ce qu'il a fait dans les années 80, parce que n'oublions pas que Frank Miller avait été engagé sur le scénario de Robocop 2 et que du coup là il avait pris cher. Il avait vraiment souffert.
Ah oui, il avait.
Voilà. Et là, de ces trois derniers films.
Il était crédité quand même.
Ouais. Mais du coup, pendant 20 ans, il avait plus touché au cinéma. Hein. Voilà.
Et avant de faire le film Sin City, donc le premier, il avait fait éditer chez un petit éditeur ses scénarios d'origine pour Robocop, dont la moitié est sortie en France, ça devait être chez Albin Michel. Ils n'ont jamais dû finir la série. Ça devait être prévu en deux tomes. Et en fait, il avait fait dessiner par un dessinateur son scénario de Robocop, histoire de dire j'ai foiré, le film est foiré, mais c'est pas de ma faute, c'est pas du tout ce que j'avais écrit au départ. Et donc, son premier jet de scénario a été réadapté en bande dessinée 15 ans plus tard.
Voilà. Effectivement, donc le film a transporté l'œuvre avec des casseroles et c'était difficile de se dire tiens, il va faire aussi bien. Je dirais pas que c'est un bon film, mais en tout cas c'est un film qui m'a étonné. Il y a des choses auxquelles je ne m'attendais pas, donc il va falloir encore quelques temps avant que je me fasse vraiment un avis pour dire si c'est un film bon.
Il est pas facile à.
Voilà. En tout cas, il est. Je dirais pas qu'il est facile.
Voilà.
Il a pris des risques, il a fait des choix, que je ne comprends pas du tout. mais en tout cas, c'est des choix. C'est pas le Spirit de Will Eisner, c'est pas le Daredevil de Frank Miller, c'est autre chose. C'est le fait d'avoir choisi les mêmes procédés que Sin City, ça va pas lui rendre service, je ne sais pas, mais en tout cas je pense que le film a coûté moins cher à faire qu'il aurait pu être en décor réel, donc peut-être d'autres spirits, même si à mon avis ça a quand même été un échec au box office, me semble-t-il.
Il est resté quoi, 2 semaines.
Oui, mais en France, c'était. Alors, je sais pas s'il y a comment il a marché aux États-Unis, mais je suis pas sûr qu'il ait aussi bien marché aux États-Unis.
Non.
Enfin bref, donc on verra. Mais en tout cas, comparé à Ghost Rider, par exemple, il a des choses en plus. Il y a un risque. il y a un risque. Est-ce que ça va payer sur le long cours? Je ne sais pas. Mais en tout cas, c'est étonnant. C'est pas, on voit pas ça tous les jours.
Ah non, c'est sûr.
Voilà. Je finirai juste en disant que si vous êtes fan de Spirit en bande dessinée, il y a une intégrale, des intégrales qui sont toujours disponibles chez Soleil Productions, donc à 24,23€, donc 25€, donc qui suivent toutes les années hein, de The Spirit. Donc pour l'instant, il y en a 7 qui sont sortis. Donc vous pouvez toujours jeter un petit coup d'œil. Et vous avez aussi chez Marvel Panini, enfin chez Panini France, la série The Spirit qui sort, mais qui est en fait la nouvelle série que la DC a fait autour du personnage. Donc il n'y a pas de scénario de Will Eisner, mais par contre il y a un scénario de, et un dessin de Darwin Cook, qui est quand même aussi un gros héritier, en tout cas dans l'esprit et dans le trait de The Spirit.
Là-dessus on ne peut pas lui nier ça. Aussi à noter pour tous les gens qui sont intéressés par le travail de Miller et ses références au cinéma, si vous allez dans les supermarchés ou dans les magasins de solderie de livres neufs, comme vous pouvez en avoir à 200 mètres d'ici, vous allez trouver les collections Les Incontournables Marvel. Dedans, il y a un tome consacré à Daredevil qui s'appelle L'Homme sans peur, qui reprend une des meilleures séries de Miller sur le personnage de Daredevil, la redéfinition des origines qui est incontestée et incontestable pour les 30 prochaines années. Et donc ce scénario est en fait ce qu'il avait proposé pour un scénario de film à Marvel. Donc voilà, donc là on regrette peut-être qu'on ne lui ait pas donné le film Daredevil à l'époque.
Voilà, donc c'était notre petit tribute à The Spirit, parce qu'il fallait quand même qu'on en parle à un moment donné. Et donc, attendons de voir ce que Miller va faire après, puisque ne serait-ce qu'avec le Sin City 2, il est pas prêt de couler, quoi. Il va, à mon avis, bien marcher.
Malheureux.
Oui, je crois que ça va pour lui.